L'allocation climat, une proposition de politique publique innovante pour décarboner la société. Voir la note quota carbone individuelle échangeable, par-delà l'illusion de Benoît Cogniet. Nous remercions tout d'abord M. Cogniet pour cette tribune. Elle répond à l'objectif premier de nos travaux. Que le sujet des budgets carbone individuels investisse le débat public. L'association Allocation Climat a été créée en 2022 à l'issue d'une étude de faisabilité réalisée courant 2021. Fruit du travail d'une quarantaine de personnes sur un an, cette étude a été complétée par d'autres analyses, notamment sur le calcul du poids carbone des biens et services et plus récemment par une comparaison des politiques publiques alternatives. L'objectif de notre étude de faisabilité était de produire des éléments de réflexion sur le sujet des budgets individuels d'émissions, en vue d'alimenter un débat citoyen autour des politiques publiques climatiques. Nous en avons donc étudié les principes fondamentaux tout en sachant que de nombreux choix resteront à faire jusqu'au moment de sa mise en œuvre. Nous sommes convaincus que le débat doit s'ouvrir pour que cette proposition émerge dans un consensus qui en préserve les caractéristiques essentielles. Nous n'avons donc pas la prétention de présenter un produit fini et prêt à l'emploi. Ce qui a pour corollaire la nécessité d'un débat public constructif séparant bien le débat sur la fin, le principe des budgets individuels, des moyens comment mettre en place, sans mélange nuisible à la pertinence du débat. Après le rappel des valeurs structurantes de l'allocation climat, nous débattrons ci après des objections développées par M. Cogniet, puis nous conclurons par une réflexion sur la mise en œuvre de notre proposition en complémentarité avec les politiques publiques actuellement menées. Les valeurs structurantes de l'allocation climat. Le budget carbone restant pour tenir la trajectoire de 1,5 degré et de 500 gigatonnes CO2 équipe consommées actuellement à raison de 60 gigatonnes par an. Le respect de ce budget est admis par la communauté politique signataire des accords de Paris comme l'objectif à atteindre pour conserver un monde acceptable pour les générations futures. À titre de comparaison, le récent projet Carbon Bombs vient de lister 425 plus grosses infrastructures ou projets d'extraction d'énergie fossile, susceptibles à elles seules d'induire le relâchement d'environ deux fois ce budget, et représentant à eux seuls la moitié des prévisions d'extraction mondiale. L'objectif des accords de Paris est d'établir le chemin qui, à l'échéance 2050, permettra de respecter ce budget et d'atteindre la neutralité carbone. Si l'on prétend vouloir respecter cet accord, on ne peut pas faire autrement que de le décliner en quantité évoluant à la baisse sur une séquence de temps nous menant jusqu'en 2050. Annualiser ces budgets est une façon de faire assez classique. L'Assemblée nationale vote ainsi tous les ans une loi de finances qui fixe le budget de l'État pour l'année à venir. La SNBC en fournit un autre exemple puisqu'elle traduit en un programme pluriannuel la trajectoire de baisse des émissions territoriales de la France avec pour objectif la neutralité carbone en 2050. Tout dérapage par rapport à la trajectoire devient très difficile à combler, l'effort de rattrapage s'ajoutant à l'effort de réduction, cet écart peut entraîner des conséquences dommageables, d'où l'importance de se munir d'outils adaptés. Partant de ce constat, Allocation Climat propose un changement de paradigme, passer d'une obligation de moyens, le fait de mettre en place une politique sans pilotage direct des émissions et de mesurer son efficacité a posteriori, à une obligation de résultat, définir une politique qui pilote directement le volume annuel d'émissions. Une fois ce cadre posé, l'originalité de l'approche proposée par Allocation Climat réside dans la contribution à cette obligation de résultat entre les acteurs économiques. Ils sont trois, l'État, les entreprises et les consommateurs. À l'inverse du CEC mis en place au niveau européen qui n'implique que l'État et les entreprises, nous pensons qu'il est vital d'impliquer les citoyens en tant qu'acteurs et consommateurs dans l'atteinte de cet objectif. L'allocation d'un budget individuel d'émissions nous semble pouvoir en être l'outil le plus efficace. Il garantit à tous les citoyens un socle d'émissions correspondant aux émissions moyennes au niveau national. Le budget individuel laissera les citoyens libres d'organiser leur propre réduction d'émissions, sans contrainte morale extérieure ni jugement. Un kg CO2 reste un kg CO2, qu'il provienne d'un vol en avion ou de l'achat de la nourriture pour son animal domestique. Dans une perspective où l'État se charge de contraindre à la baisse les émissions d'une manière ou d'une autre, l'importance du maintien d'une sphère de liberté de choix prend tout son sens. Il est cependant évident qu'une part importante des émissions ne sera réduite qu'avec des changements systémiques. La familiarisation des citoyens avec la gestion de leur budget carbone personnel enverra un signal très clair vers la classe politique et l'État pour des actions de décarbonation efficaces, étant donné que leur manque d'efficacité impliquerait une baisse du pouvoir d'achat carbone. Avec l'allocation climat, les citoyens consommateurs posent une exigence nouvelle sur les entreprises, des biens et services réellement moins carbonés. L'étiquetage carbone généralisé des biens et services orientera la demande, donc les choix de production du secteur privé et incitera à leur décarbonation via la concurrence ainsi créée. Pour ce qui est des services publics et de l'ensemble des prestations offertes par des services collectifs ne faisant pas partie du secteur marchand, elle sera dirigée par des trajectoires de décarbonation imposées par l'État. Elles agiront par l'effet de critères de choix faisant intervenir le poids carbone dans les achats publics au même titre que le feront les autres consommateurs finaux. Pour que ce changement de paradigme soit accepté par le corps social, il faudra réfléchir à une mise en place progressive, touchant successivement les différents secteurs de la consommation. Notre réponse aux objections présentées par M. Cognier. M. Cognier présente dans son article plusieurs objections qui, de son point de vue, disqualifient l'allocation climat. Ces objections nous semblent éminemment discutables. La première objection est que le système est trop complexe, qu'il serait coûteux et que, finalement, il ne pourrait être socialement supportable. Nous proposons d'éclairer ce point à la lumière des travaux réalisés dans notre étude. L'argument de la complexité porte sur deux points, la charge mentale qu'impose la gestion d'un budget carbone individuel d'abord et ensuite la complexité pratique de la mise en place du dispositif. Gérer un budget carbone en sus d'un budget strictement financier impose de tenir compte de deux valeurs qui ne sont pas exprimées dans les mêmes dimensions. C'est vrai mais, en réalité, n'est-ce pas déjà ce que nous faisons constamment ? Toutes nos décisions d'achat sont prises en combinant, en plus du prix, de multiples critères, qualité, facilité de l'obtention, délai de fourniture, mode de production, bio, local, made in France, recyclable, Nutri-Score. Le poids que nous mettons sur chacun de ces critères relève souvent de besoins et d'arbitrages individuels qui changent en fonction des circonstances. S'il s'agit de prendre en compte l'impact carbone, ça ne sera que rajouter un critère de choix, bien sûr très important mais qui s'intégrera dans un processus d'arbitrage déjà complexe. En changera-t-il la nature ? Nous ne le croyons pas. Pour le rendre le plus simple possible, et compte tenu de l'importance que nous devons lui accorder, il faut des informations précises et systématiques. L'affichage du poids carbone permettra de comparer deux produits simplement. L'objection de la complexité peut aussi porter sur le dispositif d'ensemble nécessaire à son fonctionnement. Nous n'aborderons pas ici la mise en place de la comptabilité carbone permettant d'obtenir un étiquetage carbone des biens et services puisque cette proposition est retenue par l'auteur de la tribune. La mise en place d'un marché du carbone est un problème pour Benoît Cognier car il serait intrinsèquement complexe et ouvrirait la porte à des dérives inacceptables. À la différence du système d'échange de quotas d'émissions, CEQ, dans lequel les producteurs devront à terme se procurer aux enchères les droits d'émission pour couvrir 100% de leurs besoins, le marché tel qu'il est proposé par l'allocation climat portera sur des quantités beaucoup plus réduites puisqu'il ne concernera que les droits d'émission personnels qui ne seront pas consommés. Ce sera peut-être 10% voire 20% des émissions totales mais certainement pas l'intégralité des émissions. Nous n'avons donc pas besoin de donner une place aussi centrale au prix du carbone et à sa stabilité dans l'incitation à la réduction. L'étude que nous avons faite recommande la mise en place de ce marché. C'est, suivant notre analyse, la seule manière de ne pas créer un choc de carbone à la mise en place d'une distribution égalitaire. Pour s'en dispenser, il faudrait mettre en place une distribution de budget personnalisé en fonction de la situation de chacun, ce qui nous semble devoir être d'une complexité infinie et potentiellement la source inévitable d'abus en tout genre. L'hypothèse retenue est donc d'autoriser l'échange de KGCO2 entre citoyens par le biais d'un marché. Pour l'instant, c'est l'hypothèse de travail du collectif Allocation Climat. À l'issue d'un débat citoyen, d'autres modalités ménageant une flexibilité nécessaire au budget carbone individuel pourraient bien sûr être imaginées. Nous sommes persuadés que cette problématique qui relève des moyens et non de la fin saura être traitée avec un peu d'innovation politique. Selon M. Cognier, le budget carbone individuel de l'allocation climat n'offrira qu'une garantie de résultats incertaine. En fait, l'argument n'est pas tant sur l'incertitude du mécanisme que M. Cognier décrit comme imparable mais sur le fait qu'il n'est pas possible d'y obéir sans l'action de la collectivité pour mettre en œuvre des changements systémiques qui décarboneront nos modes de vie. Nous sommes convaincus, tout autant que M. Cognier, que le respect de nos objectifs climatiques nécessite l'action résolue de l'État pour organiser la décarbonation des grosses infrastructures énergétiques, de la mobilité et des plus grosses industries, là où la stratégie long terme est portée souvent par l'État. Ce qui nous différencie, c'est que nous ne croyons pas que ce soit une condition suffisante pour tenir l'objectif. L'allocation climat sera à la fois le moteur de l'incitation à décarboner, mais aussi la voiture balai qui complétera, par la sobriété, tout ce que n'auront pas réussi à faire les évolutions technologiques, sociétales et infrastructurelles nécessaires par ailleurs. C'est le niveau d'efficacité qu'elles atteindront qui déterminera le niveau de sobriété requis pour atteindre l'objectif fixé. Il y a un intérêt évident à mettre en place des politiques et techniques de décarbonation efficaces pour minimiser l'effort de sobriété, et le rôle de l'allocation climat est de se prémunir contre leur éventuel manque d'efficacité, inefficacité intrinsèque, effet rebond. Une autre objection formulée est que le budget carbone individuel et la justice sociale seraient incompatibles. Tout d'abord, nous parlons d'une justice climatique plus que d'une justice sociale car ce dont il s'agit, quand on parle de dérive climatique, ce sont des conditions de survie de l'humanité et pas de la place relative de telle ou telle partie du corps social. Le fait est que le cadre contraignant que va imposer cette phase de transition conduira probablement à égaliser temporairement nos modes de vie. Nous ne décidons pas de cette égalisation par un a priori philosophique ou politique mais parce que nous savons que, pour l'instant, richesses et émissions de carbone sont fortement corrélées. Comme dans une cordée, tout le monde marche du même pas et, tant que le sommet n'est pas atteint, s'accorde sur le rythme du plus faible. Pourquoi parlons-nous de justice climatique? Parce qu'il s'agit de conserver ce commun qu'est, plus que toute autre chose, le climat, vivable pour tous. La justice climatique a évidemment une dimension sociale et dans notre étude de faisabilité, PP 22 et suivante, nous avons retenu le principe d'une distribution des budgets par unité de consommation, pour tenir compte des effets d'échelle qui peuvent exister au sein des ménages en fonction de leur taille. Des modèles de comportement très généralement admis incitent également à privilégier le principe d'une distribution égalitaire. On l'aura compris, le budget carbone individuel est un droit à émettre, un droit à polluer, qui le sera ensuite de moins en moins. Imaginerions-nous répartir ce droit que nous nous accordons et qui a un impact sur l'humanité entière mais plus largement sur l'entièreté du vivant, selon des indicateurs de richesse ou de situation sociale? Ce n'est pas une hypothèse qui nous a semblé philosophiquement défendable. Ce principe d'égalité introduit sur un droit à émettre du CO2 qui, jusqu'à présent n'était pas limité, peut temporairement créer des inégalités. Certaines personnes peuvent être coincées dans des situations qui les rendent malgré elles fortement émettrices. Un locataire, par exemple, n'a pas le pouvoir de décider d'investir dans l'isolation de son logement et le parc de logements ne se renouvelle que très lentement. En attendant que s'améliorent progressivement ses performances thermiques, le parc existe et on doit faire avec. On peut également penser aux besoins de transport individuel. Habiter en zone peu dense implique nécessairement de se déplacer plus pour accéder aux services indispensables. C'est une donnée géographique structurelle. Les choix individuels seront sans influence sur cette situation, et on doit savoir en atténuer les conséquences par des mesures d'accompagnement. Si dans un premier temps, il n'est pas impossible qu'il faille déroger au principe de distribution égalitaire, il faut le limiter au maximum car il est évident qu'il générera de nouvelles inégalités, des besoins de contrôle, la possibilité de fraude. Mieux vaut évidemment avoir résolu ces problèmes avant que ne soit mis en place l'allocation climat. Enfin, le budget carbone individuel induirait une mise en tension de la société inconcevable. Serait-il attentatoire à ce qui fait notre contrat social? C'est en tout cas ce que semble penser Benoît Cogniet. À bien le lire, le droit à polluer en émettant du CO2 est un droit strictement attaché à la personne. Le rendre négociable sur un marché serait attenté à un droit existentiel qu'on pourrait comparer au droit à la santé et à l'intégrité du corps. Et, en créant ce marché du carbone, de proche en proche tout ce qui fait société serait transformé en objet d'échange. Les tenants du budget carbone individuel seraient donc des ultra-libéraux plus dangereux encore que ne l'était Mrs. Thatcher en son temps. Sérieusement? Non, et au contraire, nous faisons de notre budget carbone résiduel un commun. Distribué également à tous, nous prétendons avec lui constituer un fait social nouveau autour de ce projet qu'est la sauvegarde d'un environnement et d'un climat vivable pour les générations futures. Le contrat social qui nous lie augmenterait ainsi en taille. Benoît Cogniet prétend montrer l'absurde qu'il y aurait à étendre ce principe de répartition égalitaire en l'étendant à tous les autres sujets qui posent des problèmes de répartition, en prenant l'exemple de l'eau. Effectivement, en situation de sécheresse accentuée, la distribution de l'eau est régulée par l'État qui interdit de remplir sa piscine. Personne ne crie au scandale, personne n'y voit les prémices d'une société totalement égalitaire voire communiste. Enfin, la dernière critique présentée par M. Cogniet, habituellement la plus largement partagée, est qu'elle créerait des tensions sociales destructrices. Le budget carbone individuel cliverait la société entre ceux qui seraient du bon côté, les sobres, en dessous de la moyenne des émissions, et ceux qui seraient de l'autre côté de la barrière et qui subiraient une pression spécifique, inédite et remettant en cause un consensus établi. Le défi éthique et démocratique qu'il pose serait insurmontable. Cette critique est sérieuse. Examinons-la. Est-ce que le principe d'une limite absolue portée sur nos actions existe par ailleurs? Mais oui. Ce n'est pas parce que je possède un terrain que je suis libre de son usage. Je ne peux pas déboiser librement et la raison qui l'interdit est celle d'une utilité supérieure, la préservation des écosystèmes. Le consensus n'est pas encore établi quant à la nécessité de respecter cette nouvelle limite, notre budget global d'émissions, de l'accepter comme quelque chose qui nous concerne personnellement, mais peut-on réellement imaginer éviter l'obstacle climatique qui se présente devant nous? La mise en place des budgets carbone individuels ne sera contraignante que si l'économie ne se décarbone pas au bon rythme. La pente de la réduction nécessaire de nos émissions est forte et a été rendue concrète par l'effet du Covid sur nos économies en 2020. Il est donc difficile d'imaginer que ça n'aura pas un effet sensible sur nos modes de vie. En d'autres termes, c'est le taux de réduction qui met la société sous tension, bien avant le choix de la politique qui le rendra possible ou nécessaire. Comment ne pas dresser les uns contre les autres ceux qui seront de part et d'autre de cette moyenne qui réglera l'attribution des budgets carbone? On peut espérer que le caractère absolument vital de ces changements sera perçu suffisamment vite pour que, par le débat, nous soyons capables de dépasser ce risque. Si nous n'arrivons pas à contrôler la dérive climatique, ne risquerions-nous pas de créer les conditions d'une autre confrontation, largement plus terrifiante, qui opposerait ceux qui n'auront plus rien à perdre, et ceux qui auront l'illusion de pouvoir sauvegarder encore un mode de vie périmé. On notera enfin que la notion d'acceptabilité sociale est réductrice. Nous conclurons sur ce sujet en citant Patrick Jolivet, directeur des études socio-économiques à l'ADEME. Nous proposons de substituer à acceptabilité sociale le triptyque désirabilité, faisabilité et conditions de réalisation. Ensemble, ces trois mots renvoient à un champ très ouvert, incluant les valeurs et les intérêts, les contraintes individuelles et collectives ou encore les facteurs pouvant conduire à une meilleure adéquation des projets à la société. Si, comme nous le souhaitons, cette réflexion s'engage, d'autres mots seront peut-être proposés. L'important, c'est d'éviter les simplifications qui appauvrissent les débats. Quel cheminement vers l'allocation climat ? Nous nous sommes interrogés sur les conditions qui rendraient possible la mise en œuvre partielle ou globale de l'allocation climat et sa possible complémentarité avec les politiques publiques actuelles. En France, la loi Résilience et Climat de 2021 agit à plusieurs niveaux. Elle oriente la transition énergétique et écologique par des dispositions réglementaires et par des incitations financières dans les domaines de la réparabilité des biens de consommation, de l'urbanisation, du logement, des transports et de la production d'électricité. Elle met en œuvre également des leviers informationnels à travers l'encadrement de la publicité et la délivrance d'informations sur les produits de consommation visant à modifier le comportement des consommateurs, éducation à l'environnement, promotion d'une alimentation moins carnée, promotion de l'usage responsable. Un secrétariat à la planification écologique a été créé en 2022 qui a pour mission de coordonner et de planifier l'ensemble des actions entre les différents ministères, les collectivités locales et les syndicats professionnels des différentes filières. L'ensemble de ces politiques s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, feuille de route élaborée par le gouvernement en 2020. De son côté, l'UE a émis un paquet de 12 propositions législatives appelées FIFOR 55 qui vient compléter une politique de quotas amont ciblée sur certains secteurs industriels et architecturés autour des règlements européens CEQI et 2. Ces politiques européennes portent principalement sur la décarbonation progressive de l'offre avec par exemple l'obligation d'achat de quotas par les acteurs de l'industrie lourde, y compris ceux externes à l'UE avec la taxe carbone aux frontières, qui pourra se traduire en aval par une augmentation du prix des produits finaux vendus, une taxe carbone indirecte en quelque sorte, à l'instar de celle qui porte sur les combustibles utilisés dans les transports et les bâtiments régis par le règlement CEQ2. Pour tempérer les effets de cette inflation carbone, un fonds social pour le climat a été créé qui permettra de subventionner les ménages les plus vulnérables dans leur effort d'investissement pour leur logement ou leurs moyens de transport. Ce volet redistributif nous paraît limité dans son périmètre, très compliqué à mettre en œuvre et pour l'instant peu transparent. L'ensemble de ces politiques, tant à l'échelon français qu'européen, vise à décarboner l'économie et à sensibiliser le citoyen aux enjeux liés à sa consommation. La critique qu'on peut porter est qu'elle ne traite pas de manière globale l'empreinte carbone qui est, rappelons-le, environ le double de nos émissions territoriales. Il nous semble, sur la base de ce constat, légitime d'ouvrir le débat. Tout ceci sera-t-il suffisant pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris? Nous pensons que non. Si nous sommes d'accord avec la nécessité de mener sans attendre ces politiques de décarbonation, nous proposons de les accompagner de dispositifs agissant sur la demande afin d'en renforcer l'effet et d'avoir une garantie de résultats vérifiables année par année. Il s'agit pour nous de conjuguer les deux politiques pour que les vertus de chacune permettent d'être plus efficaces. La mise en place d'allocations climat nécessiterait au préalable l'adoption par les entreprises et les administrations d'une comptabilité carbone demandant plusieurs années pour être opérationnelle. Sa mise en œuvre sur un périmètre de consommation très large ne peut donc être envisagée immédiatement. Pour autant, des budgets d'émissions individuels pourraient être déclinés sur un périmètre initial réduit et simple à mettre en œuvre, comme la consommation de carburant pour le logement et les transports des ménages à la suite d'un achat direct ou indirect, comme des achats de prestations de transport. Cette mise en place, qui viendrait en remplacement du CEQ2 prévu en 2028, permettrait aux citoyens de se familiariser avec le dispositif et à l'État de valider les structures techniques et réglementaires nécessaires. Nous sommes bien conscients que la mise en place de l'allocation climat constitue un défi culturel, politique et économique important, aussi son adoption doit être décidée par un processus démocratique fort. Une convention citoyenne pourrait alors se tenir quelques années après la mise en œuvre du dispositif réduit pour étudier la possibilité d'un référendum national qui élargirait le champ d'application à d'autres secteurs de la consommation. L'allocation climat permettrait ainsi d'organiser dans un cadre collectif juste la sobriété de chacun en préservant une certaine liberté d'arbitrage individuel, créant ainsi les conditions d'une sobriété globale de notre société, indispensable pour réussir à terme notre transition.